Je vais proposer un enseignement sur ce jeune saint, Carlo Acutis, que le pape Léon XIV va canoniser dans quelques jours, quelques semaines, le 7 septembre. Ce jeune Italien dont la vie est un miracle pur, et qui est un saint eucharistique, un nouveau saint eucharistique absolument prodigieux, et qui va mourir à 15 ans seulement. Il s'illustre dans cette grande lignée, eh bien, des Tarsissus, Saint Imelda, et combien de jeunes ont été saisis par la grâce de l'Eucharistie et ont voulu imiter par toute leur vie cette vie de Jésus dans l'Eucharistie, et puis offert leur vie en hostie vivante, sacrifiée, voilà, pour le salut du monde. Alors Carlo Acutis, pour dire utiliser un mot moderne, est un vrai influenceur. On parle des influenceurs aujourd'hui. Alors d'abord influenceur de la jeunesse, mais on va dire aussi influenceur des baptisés, de vous et moi, pour approfondir une spiritualité eucharistique incarnée, pleine d'amour pour Jésus dans l'Eucharistie, et puis tout tourné vers le prochain. Lorsqu'on regarde les photos de Carlo Acutis, on le voit souvent avec un sac à dos qui nous rappelle, eh bien, que c'est un pèlerin, un homme toujours en route, un garçon toujours en route, et qui avance vers sa destination, vers le ciel, sa patrie. Et tout ce qui compte pour lui, c'est d'aller au ciel, un vrai pèlerin de l'infini, toujours à la recherche de l'absolu. Alors Carlo est né à Londres en 1991 de parents italiens, non, voire peu pratiquants. L'enfant est tout de même baptisé et il va recevoir une instruction catholique. Pour lui, le baptême, c'est le commencement, le premier don de Dieu. On devient héritier du royaume. Quelle merveille! Il écrit ceci. Alors, je vais souvent citer, faire parler Carlo Acutis. C'est ça qui est intéressant pour nous, surtout dans la deuxième partie hein, de cette petite présentation, où on pourra découvrir aussi ça, la profondeur, la richesse de sa spiritualité. Alors, il dira à propos du baptême, les âmes, le baptême permet aux âmes de se sauver grâce à leur insertion dans la vie divine. Les gens qui participent à un baptême se polarisent trop souvent sur les confettis, les bonbons et la robe blanche, qui font partie de la fête, mais ils ne se soucient absolument pas de comprendre le sens de ce grand don que Dieu fait à l'humanité, devenir enfant de Dieu. Alors Carlo est un enfant passionné par la vie, qui s'attire naturellement l'amitié de tous. Sa nourrice polonaise lui apprendra, eh bien, se montrer toujours pacifique auprès des enfants un peu agressifs. Il disait, le Seigneur ne serait pas content si je réagissais avec violence. Alors Carlo a une enfance relativement ordinaire. Il aime les animaux, surtout les chiens. Il fait des vidéos comiques avec son téléphone, mettant ses chiens en situation comique. Il aime le foot, il apprend le saxophone et bien sûr il se passionne pour l'informatique. Mais au-delà de tout ça, la vraie passion de Carlo, eh bien, c'est Jésus-Christ. Il est attiré par Jésus et son désir, son seul désir, dès son plus jeune âge, c'est d'être saint. Il disait, mon secret, c'est d'avoir un contact quotidien avec Jésus. Le lieu qui l'affectionne tant est Assise, où ses parents avaient une résidence secondaire. C'est là que sa dépouille hein, se trouve actuellement. Assise, il disait, le lieu où je me sens le plus heureux. Il aime, il découvre la grâce de Saint François d'Assise, qui était un grand saint eucharistique, et bien sûr avec une charité toute concrète vers les plus pauvres. À 7 ans, Carlo Acutis fait sa première communion, et désormais il s'engagera à aller tous les jours à la messe. Et plusieurs anecdotes disaient que lorsque ses parents projetaient partir en vacances quelque part, la première chose qu'ils demandaient, est-ce que je pourrais avoir la messe tous les jours? Ça devait être assez agaçant pour les parents qui étaient peu pratiquants, hein, d'avoir cette contrainte pour fixer leurs vacances. Alors Carlo était pris de l'Eucharistie, une petite anecdote intéressante. Sa maman, le premier cadeau qu'elle lui a fait, c'était un petit agneau blanc. Et le jour de sa première communion, en allant à l'église, eh bien, il y a un petit agneau, hein, qui sort, hein, qui passe devant la voiture. Certainement, cet agneau, qu'il croise étrangement et comme un présage, hein, de ce qui doit arriver pour lui, symbole de cette vie offerte, une hostie vivante offerte, hostie silencieuse. Alors Carlo reçoit ce qu'on appelle une grâce d'attrait. Une grâce d'attrait, c'est un cadeau que le Seigneur, peut nous donner, un attrait profond pour l'Eucharistie. Vous vous souvenez de Jean chapitre 6 où il dit, Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est-à-dire pour aller à l'Eucharistie, pour aimer l'Eucharistie, eh bien le Seigneur, c'est le Père qui donne cette grâce d'être attiré par l'Eucharistie. Cette grâce, il faut la demander. Et Carlo, bien sûr, l'avait reçue abondamment et il avait cette soif irrésistible de l'amour eucharistique pour Jésus. Alors Carlo était un jeune qui aimait la pureté de parole, de cœur, de corps, bien sûr. Les nombreuses amitiés de l'adolescent ne se maintenaient dans les limites d'une chasteté sans compromission. Il fuyait les familiarités, hein, et une jeune fille témoignera de sa fidélité inconditionnelle à l'enseignement de l'Église, et puis aussi sur les questions d'avortement, où il savait s'engager en classe lorsqu'on faisait des débats sur ce sujet-là, hein, et pour lui, il voulait toujours défendre la vie humaine et rappeler que, bien sûr, l'avortement est la suppression d'une vie, hein, un homicide. En même temps, Carlo, cet homme, ce garçon vertueux, détestait les blasphèmes et puis aussi cette tyrannie du monde par rapport aux différentes modes vestimentaires. Alors pour Carlo, rien n'est plus grand que la messe. Alors je vais citer Carlo. Peu importe si l'église n'est pas la plus belle, peu importe si le curé ne fait pas la meilleure homélie, peu importe si ceux qui animent la liturgie vous cassent les oreilles, une seule chose compte, Dieu est là. Ensuite, un peu plus loin, il dit, il a écrit beaucoup de notes sur un cahier personnel et c'est sa mère à sa mort qui a publié ceci, surtout dans le petit livre Le secret de mon fils que je vous invite à lire. Si les chrétiens comprenaient ce qu'est la messe, ils se battraient pour entrer dans l'Église, pour ne plus la quitter, car c'est vraiment un acte créateur de vie en nous. C'est la vie même de Jésus. La messe est quelque chose de grand qui se passe en nous, dans notre vie, dans lequel nous sommes impliqués avec Jésus, comme si nous étions co-immolés avec lui. Alors, il n'a pas fait de théologie, vous savez qu'il voudra être prêtre, il ne pourra jamais être prêtre, mais c'est quand même incroyable pour quelqu'un qui a jamais étudié la théologie d'exprimer, hein, tous ces mystères avec souvent quelques mots qui pourraient être un petit peu maladroits, mais qui sont tellement beaux, tellement lumineux et tellement profonds. Alors accueillons-les, hein, de ce jeune qui nous parle. La messe n'est rien d'autre que le sacrifice de la croix, l'unique sacrifice éternel qui se renouvelle et qui nous implique intimement dans notre appartenance à son corps. Le paradis est déjà en nous et nous sommes déjà au paradis. Mais tant que nous sommes sur cette terre, cet amour est crucifié. Ce n'est pas pour rien que Jésus a voulu rester avec nous dans son amour sacrifié dans le sacrement de l'Eucharistie. Dire que nous aimons l'autre et ne pas accepter la croix que l'autre implique est une plaisanterie. La caractéristique de l'amour sur cette terre sera toujours un amour crucifié. Uni à Jésus, son amour crucifié nous engendre. Or, c'est la croix qui donne la vie, non la mort. La croix donne la résurrection, donc ce n'est ni la tristesse ni le désespoir. Ce serait du désespoir si nous souffrions pour ce qui ne vivifie pas. Dans l'Eucharistie, cette osmose a lieu. L'amour sacrifié du Christ me prend, me transforme intérieurement dans mes sentiments, ma volonté, tout mon être. J'entre en Jésus dans son mystère le plus intime et je deviens en lui en réalisant cette communion essentielle et fondamentale avec mon Seigneur pour lequel j'ai été créé. Il passe en moi, je passe en lui. Si vous commencez à aller à la messe tous les jours, vous verrez, vous ne pourrez plus vous arrêter. Et je vous promets que cela vous arrivera. Si avant, vous ne trouviez pas le temps de faire quoi que ce soit, après avoir été à la messe, vous trouverez le temps de tout faire. Faites-en l'expérience. Les saints, ce sont à la fois les plus actifs et ceux qui passent le plus de temps dans la prière. Comment est-ce possible? Ça fait partie des grands paradoxes divins. Plus on aime Dieu, plus c'est Dieu ensuite, dans cet acte de foi que je pose dans la prière, qui me permet de faire tout ce que j'avais prévu et bien plus, et je le fais avec sa grâce. Alors, Carlo, un jour, prend cette fameuse autoroute, vous savez, l'autoroute dite des lacs, de Milan à Varèse. C'était la première autoroute qui avait été construite en 1924. C'était un projet futuriste assez extraordinaire qui voulait le but de relier deux villes plus sûrement, plus directement et plus rapidement. Alors, c'était un garçon intuitif, hein, qui avait beaucoup d'intuition, et cette intuition profonde qu'il ne cessera de répéter. L'Eucharistie, c'est mon autoroute du ciel pour y aller plus sûrement, plus rapidement et plus directement. Et il ajoute, tu vas directement au ciel si tu vas à l'Eucharistie tous les jours. Alors, au moins, c'est clair. Carlo se passionne pour l'informatique. On connaît ses talents qu'il mettra tout de suite au service de du site internet de son collège. Un professionnel de la programmation qu'il avait rencontré était étonné, hein, par ce jeune qui n'avait jamais étudié l'informatique, mais qui avait tout compris, qui était capable de faire des choses extraordinaires. Hein, il disait voilà qu'il était extrêmement intuitif. Alors en classe, il va d'abord aider ses camarades dans les difficultés scolaires, mais ensuite, rapidement, il veut surtout les aider à découvrir la foi, à recevoir la foi. Il va s'engager à 14 ans comme catéchiste et il va préparer les jeunes à faire leur confirmation pour les aider à progresser spirituellement. Il a inventé un petit kit. Alors voilà le programme de Carlo aux jeunes qu'il catéchise. Alors il écrit ceci. Je veux vous donner quelques-uns de mes secrets très spéciaux qui vous aideront à atteindre rapidement le but de la sainteté. N'oubliez jamais que vous pouvez vous aussi devenir un saint. 1. Vous devez d'abord désirer de tout votre cœur. Et si vous ne le désirez pas encore, vous devez le demander avec insistance au Seigneur. 2. Essayez d'aller à la messe tous les jours et recevoir la Sainte Communion. 3. Si vous le pouvez, faites quelques moments d'adoration eucharistique devant le tabernacle où Jésus est réellement présent et vous verrez comme votre niveau de sainteté augmentera. 4. N'oubliez pas de réciter le Saint-Rosaire tous les jours. 5. Lisez chaque jour un passage de l'Écriture sainte pour vous-même. 6. Si vous le pouvez, confessez-vous chaque semaine, même pour les péchés véniels. Et 7. Prenez souvent des résolutions et adressez des requêtes au Seigneur et à la Vierge Marie pour venir en aide aux autres. Et enfin, demandez l'aide de votre ange gardien qui doit devenir votre meilleur ami. Alors ça, voilà, ça c'est notre catéchiste hein, qui enseignait ces conseils-là, 7 points. Et si on fait ça, on est tout de suite un saint. Alors Carlo va se lier d'amitié avec un jeune qui était dans sa famille, Rajesh, c'est un employé de la maison de religion hindoue, et voilà qui va bien sûr s'efforcer d'évangéliser cet hindou hein, pour lui parler avec cette conviction et son amour de Jésus et de Jésus dans l'Eucharistie. Nous savons que Rajesh finira par recevoir le baptême, fera sa première communion. Et Rajesh écrivait ceci ensuite, les vertus, hein, lui disait Carlo, s'acquièrent principalement par une vie intense sacramentelle et c'est l'Eucharistie qui en est certainement le sommet. À travers ce sacrement, le Seigneur nous fait devenir des personnes complètes, faites à son image. Alors, être toujours uni à Jésus, voilà le but de ma vie, nous dit Carlo. Suffit-il pour cela d'aller à l'église? Oui et non. Hein, il faut bien sûr vivre en présence de Dieu à tout moment. Carlo va s'instruire, lire la vie des grands saints et découvrir la place centrale qu'avait la prière dans la vie de tous les saints. Il découvre que l'Eucharistie est le sacrement de l'amour et il nous dit « Nous pouvons vivre parfois dans notre prière une telle communion avec Dieu qu'il faut rechercher et chérir ces temps de grâce. » Et puis ensuite, il explique qu'il ne recherche plus les maîtres de ses livres, mais le maître par excellence qui est Jésus dans l'Eucharistie. Et nous sommes appelés, bien sûr, aussi à nous nourrir, à nous laisser guider par ces grands maîtres spirituels, sachant que le vrai maître, le vrai éducateur, c'est notre Seigneur Jésus vivant dans la Sainte Hostie. Carlo écrit, le blé devient de la farine, la farine devient du pain, et ce pain devient cette espèce ou apparence nécessaire à la Sainte Eucharistie. Lorsque Jésus parle du grain de blé, il pense à lui-même en tant que pain consacré et transsubstantié, et à nous comme à des personnes qui vivent de ce pain, existent de ce pain et se portent avec ce pain dans l'éternité. Il découvre le miracle de l'Anciano qui va le toucher particulièrement dans ce village des Abruzzes en Italie. On vénère depuis l'année 750, le 8e siècle, une hostie qui est miraculeusement transformée en chair et en sang au moment où le prêtre prononçait la parole de consécration. Vous savez que ce miracle eucharistique a été analysé par plusieurs spécialistes et en 1970, la chair s'est avérée être un tissu de myocarde, tissu du cœur humain, et le sang qui semble frais de groupe AB. Alors pour Carlo, c'était l'assurance que dans l'Eucharistie, nous avons le don du Sacré-Cœur. C'est le cœur de Jésus que j'adore lorsque je vais prier devant le Saint-Sacrement. Alors à partir de ce moment-là, il va essayer de trouver des moyens pour parler de la présence réelle, ce qu'on appelle cette fameuse transsubstantiation, ce mot un peu difficile à déjà prononcer, à comprendre encore plus, où on veut à la fois associer deux réalités qui semblent s'opposer. D'un côté, Jésus a pris du pain, il a dit « ceci est mon corps », Jésus ne ment pas, donc nous avons vraiment le corps du Christ, mais de l'autre côté, lorsque je mange cette hostie, ça a le goût de pain. Et donc, c'est pour ça que les théologiens, à partir de ces paroles, cette réalité, ont trouvé ce mot qui nous rappelle que nous avons la réalité du pain qui devient la substance du pain, qui devient la substance du corps du Christ, mais les apparences qui sont miraculeusement préservées sans leur sujet. Il n'y a plus le sujet du pain, mais c'est le sujet du corps du Christ sous les apparences du pain, et avec tous les autres prodiges, miracles dans l'Eucharistie à chaque messe. Alors Carlo va recevoir une autre inspiration. Un jour, avec ses parents, en 2002, il visite les expositions magnifiques de Rimini, sur les voitures de course italiennes, les bolides. Et devant la beauté de ces panneaux, il se dit, il faut faire la même chose, des panneaux aussi beaux, mais non pas pour montrer le génie humain, on va dire, pour faire des voitures, mais pour montrer le vrai miracle de Dieu parmi nous, la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Et alors, il va déployer à partir de ce moment-là une énergie absolument considérable pour découvrir, tous les lieux où il y a eu des miracles, des prodiges eucharistiques qui ont été authentifiés, reconnus par les évêques. Et il se lance dans ce travail de cette exposition eucharistique. Il ne pourra pas la terminer, ça sera terminé ensuite. Et ensuite, ça sera traduit dans je ne sais combien de langues. Juste en France, cette exposition des miracles eucharistiques a parcouru au moins 500 paroisses. Quelle fécondité! Alors pour Carlo, ce qui comptait, c'était de rester des originaux, non pas des photocopies. Je vous relis ce passage que vous avez dû entendre certainement. La véritable originalité consiste à revenir à l'origine qui est Dieu. La création se poursuit sans cesse par la médiation de l'homme. L'homme ne crée pas, mais il découvre et part de cette découverte. Ceux qui s'appuient sur les lois de la nature pour créer des nouvelles œuvres collaborent avec le Créateur. Ceux qui copient ne collaborent pas. C'est pourquoi l'originalité consiste à revenir à l'origine. Et ensuite, tous les hommes naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Voilà. C'était le pape François qui reprenait cette citation dans sa première encyclique, La joie de l'Évangile. Alors Carlo va passer de plus en plus de temps en silence dans les églises pour adorer Dieu. Il disait, sous le soleil, on finit par bronzer. Sous le regard de Jésus Eucharistie, on devient saint. Autant Carlo c'est prendre le temps pour contempler la beauté. Il aimait tant les grandes randonnées dans la nature. Autant il dit qu'il ne faut pas se tromper. S'il y a dans la nature une présence d'immensité de Dieu, il n'est pas présent dans un arbre ou dans une montagne, mais on rencontre Dieu en adorant une présence personnelle, aimante, et c'est dans la Sainte Hostie. Hein, c'est beau. Carlo nous invite à adorer, bien sûr c'est dans le cœur que tout se passe, mais aussi à faire participer le corps, hein, selon ce verset, « Prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel et la terre, la mer, les sources des eaux. » Alors il explique avec un peu d'humour, « Lorsque vous assistez à la messe, vous devez manifester par votre corps votre foi. Hein, » il évoque par là l'agenouillement. « Si je me mets à rire, si je mange un chewing-gum que je retire de ma bouche juste avant de communier, ou si je m'agite sur ma chaise, je ne me prépare pas à participer pleinement à la messe en dirigeant mon cœur vers Dieu. » C'est vrai que lorsque je mets mon corps en adoration, eh bien mon cœur naturellement se met en adoration. Bien sûr que c'est dans le cœur que ça se passe, mais nous sommes des êtres unifiés, notre corps et notre âme qui font un, et les deux sont appelés à participer, dans la mesure du possible, à cette adoration de Jésus dans l'Eucharistie. Alors Carlo nous dit, tous nous avons été créés potentiellement saints, mais Dieu nous a créés libres, libres de faire le bien ou le mal. Et moi je veux suivre l'exemple du disciple Jean, le disciple bien-aimé. Alors il y a beaucoup de méditations sur le disciple Jean, il voulait imiter celui qui, à la dernière scène, s'est penché sur le côté, sur le cœur de Jésus. Il a fait cette expérience de cet amour personnel, inconditionnel, et il découvre que, en venant adorer le Saint-Sacrement, eh bien, je fais la même démarche, même geste que Jean, en reposant sur le côté de Jésus, et je repose aujourd'hui sur le cœur eucharistique du Christ. Alors, il disait, Carlo répétait avec ferveur, « Jésus est présent de la même façon qu'il l'était il y a 2000 ans, au temps des apôtres, au Saint-Sacrement. » Au Saint-Sacrement, Jésus est présent de la même façon qu'il était il y a 2000 ans, au temps des apôtres, à la différence près qu'à l'époque, les disciples devaient se déplacer continuellement pour le voir. En revanche, aujourd'hui, nous sommes plus privilégiés qu'eux, puisque Jésus nous attend dans n'importe quelle église proche de chez nous. Il faut la foi. Il dit encore, nous avons Jérusalem au pas de la porte. Alors, une autre anecdote que je trouve extrêmement forte. Un jour, son père lui propose de faire un pèlerinage extraordinaire en Terre Sainte pour aller marcher là où Jésus a marché, vivre là où Jésus a vécu. Alors lui, Carlo, bien sûr, comme tous les jeunes, il aimait beaucoup voyager. Mais voilà que le fils répond à son père, « Papa, je préfère rester à Milan. Quand je pense que Jésus sera ici présent, pourquoi aller voir là où Jésus était il y a 2000 ans, alors qu'il est maintenant ici ?» Et ensuite, Carlo constate avec à quel point les tabernacles de Milan sont délaissés. Et cela va le faire gémir beaucoup intérieurement, en pensant à toutes ces églises vides, avec personne dedans. Il préfère l'idée en plutôt d'aller en pèlerinage dans chaque église de sa ville, aller visiter tous les tabernacles abandonnés de Milan, plutôt que d'aller en Terre Sainte. Le fait qu'on soit prêt à faire des kilomètres pour voyager, alors qu'on n'est pas prêt à faire quelques mètres pour aller prier Jésus dans la Sainte Hostie, le blesse profondément. Et c'est pour cela que chaque fois qu'il voyagera, la première démarche qu'il fait, c'est de chercher une église pour aller saluer le Seigneur et prier quelques minutes à ses pieds. Alors Carlo Acutis garde toujours à l'esprit les quatre fins dernières. Vous aurez un enseignement sur ce sujet-là. Hein, la mort, le jugement, l'enfer, le paradis, les réalités ultimes de la vie de tout homme. Alors ses amis le traitent parfois d'être un peu excessif, voire bigot avec toutes ses dévotions, son chapelet, ses visites dans les églises. Mais lui est scandalisé de rencontrer des prêtres qui ne croient pas à l'existence de l'enfer ni du purgatoire. Alors il dit, si vraiment les âmes courent le risque de se damner, comme en effet tant de saints en ont témoigné et comme l'ont confirmé les apparitions de Fatima. Alors il avait été bouleversé par la découverte du message de l'ange et de la Vierge de Fatima. Je me demande pourquoi aujourd'hui on ne parle presque jamais de l'enfer. Parce que c'est une chose tellement terrible et épouvantable que j'en suis effrayé, rien que d'y penser. L'unique chose que nous devrions vraiment craindre est le péché. Alors il se confesse régulièrement et il invite ses amis à en faire de même. Il donne cette belle image. Il dit, pour s'envoler vers les hauteurs, la montgolfière a besoin de lâcher du lest. Tout de même, tout comme l'âme, pour s'élever vers le ciel, a besoin d'enlever même les plus petits poids que sont les péchés véniels. Alors un jour, il découvre que l'objet liturgique que l'on place, ce petit promontoire que l'on passe sous l'ostensoir, exposé le Saint-Sacrement toute la nuit et longtemps, s'appelle le tabor, un tabor. Alors Carlo va méditer beaucoup le passage de la Transfiguration sur le mont Tabor, où Pierre, devant cette présence lumineuse, avec un éclat de la divinité du Christ, veut monter trois tentes pour rester proche de son Seigneur et contempler cette gloire. Alors Carlo comprend que la gloire, c'est pour le ciel. Aujourd'hui, tout est caché dans l'Eucharistie, mais sa vie, pour lui, c'est d'être sur le tabor, c'est-à-dire à côté du Seigneur qui est présent, qui peut manifester ses consolations, sa lumière, mais qui en même temps reste caché ici-bas. Alors Carlo comprend que le vrai ostensoir, c'est notre cœur, c'est là que le Seigneur veut être adoré par notre cœur, et que les cœurs des hommes n'étaient pas toujours des ostensoirs de pierres précieuses. Il déplore le peu de place dans les cœurs pour la présence de Jésus et toutes les excuses pour ne pas avoir le temps pour l'adorer. Alors il écrit ceci. Jésus s'est fait homme en prenant chair d'une jeune femme de 15 ans, à peine. Et c'est elle qu'il a choisi pour être sa mère, de même qu'il a choisi un pauvre charpentier comme père adoptif. Quand il est né, ils ont été rejetés par tous ceux qui refusaient de les héberger et ils n'ont trouvé qu'une grange pour s'abriter. Quand on y pense, être accueilli dans une pauvre grange à Bethléem, c'est toujours mieux que d'être accueilli dans une maison où l'on ne veut pas de lui. Même si elle est misérable, la grange sait recevoir avec plus de dignité et que toutes les plus belles maisons qui n'ont pas su lui faire place. Que Dieu choisisse la pauvreté plutôt que la richesse, pour moi, c'est tout juste incroyable. Et Carlo continue sa méditation en expliquant que cette nouvelle grange, c'est bien sûr son cœur, et c'est là que le Seigneur, veut être accueilli et adoré aujourd'hui. Alors, il propose des méditations. Je pense que c'est ses notes privées. Je ne sais pas s'il écrivait ça en méditant devant le Saint-Sacrement ou dans sa chambre avant de se coucher. Alors j'ai deux paragraphes avec plusieurs phrases, un petit peu long, mais c'est intéressant de l'écouter simplement et de voir son style, son langage. Il veut parler de la grâce de l'inhabitation de la Sainte Trinité. C'est le Père, le Fils, Saint-Esprit qui habitent en nous par le baptême. Et cette présence qui est augmentée, qui est intensifiée à travers l'Eucharistie. Alors bien sûr, Carlo comprend que Jésus prolonge son incarnation, cette incarnation qui a duré 33 ans sur Terre. Il la prolonge aujourd'hui sous les apparences du pain dans l'Eucharistie. Et il rappelle, comme je vais le lire, que l'âme qui reçoit Jésus dans l'Eucharistie que pour l'âme qui reçoit Jésus, peut-être rien ne change de l'extérieur, mais en fait tout change de l'intérieur. Alors il écrit ceci. Lorsque Jésus a revêtu la nature humaine et s'est fait homme, il est descendu sur notre planète, non pas comme un extraterrestre, mais comme l'un, L-U-N, un, qui est vivant hors du temps et de l'espace et qui est entré dans sa condition dans le temps et l'espace, incorporant, assimilant, jumelant, joignant sa nature à la nôtre. Jésus est donc devenu, comme le dit saint Paul, tout en tous. Il a pris de cette planète la vraie réalité, la vraie substantialité de cette planète Terre qui fait partie de la création, donc de l'un. Avant l'incarnation, l'humanité emprisonnée dans sa culpabilité originelle et actuelle avait plongé le fil des siècles dans un abîme qui semblait insondable, insurmontable. Or, à un moment donné, l'amour l'a emporté sur la justice, la miséricorde sur la punition, et l'incarnation a vaincu le péché. C'est sa petite méditation que je lis. Cette planète qui a vu pendant une génération la deuxième personne de la Trinité incarnée n'est plus ce qu'elle était auparavant. Oui, astronomiquement, scientifiquement, géologiquement, c'est peut-être la même qu'avant, mais du point de vue de l'évangile de l'incarnation, ce n'est plus la même planète. Elle est incorporée dans l'éternité, dans un dessein d'amour divin, de sorte que nous sommes vraiment incorporés depuis 21 siècles dans ce dessein. Nous devons penser à cette habitation comme à une appropriation de la planète de la part de Jésus, ce même Jésus qui s'y déplace maintenant encore dans l'Eucharistie comme dans la foi, au milieu de nous, de sorte qu'il marche parmi nous, qu'il vit parmi nous, qu'il partage notre vie quotidienne, dans l'Eucharistie comme dans la foi, si bien que nous devons considérer cette demeure comme la véritable demeure du Christ sur cette planète Terre. Alors je continue. Par conséquent, lorsque nous communions, Jésus qui demeure en nous pendant un quart d'heure, caché sous les espèces du pain et du vin, là, on vous invite à faire un petit quart d'heure d'action de grâce, parfait. Alors, Jésus est substantiellement présent. Il vit vraiment dans le sens que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'il partage notre vie quotidienne et il continue de faire, après que les espèces du pain et du vin se sont retirées, par sa grâce, sa demeure en nous. Ainsi, nous devenons sa maison, sa demeure, pour que Jésus présent, vivant et vrai, ne soit pas simplement un fait de foi, mais un fait de vie. Alors, c'est ces termes. C'est-à-dire que Jésus est avec moi, je suis avec lui, et c'est un fait éminemment personnel, individuel. Cette relation directe entre Jésus et moi s'opère par l'Eucharistie. Alors pour Carlo, la prière, c'était pas toujours facile. Il avait son esprit qui partait dans tous les sens, comme nous souvent, les distractions, les soucis de la vie, les idées qui peuvent nous décourager, nous convaincre que nous ne savons pas adorer. Alors pour Carlo, il dit « méditer, ça n'est pas sorcier ». Il dit « je m'aperçois que plus j'aime Jésus, moins je me distrais. Et maintenant, je veux l'aimer complètement. Il me regarde, je le regarde, ce regard m'enrichit. Je laisse le Seigneur m'observer, il creuse en moi, il façonne mon âme, il la moule. Il est réellement présent, il n'est pas une intention, il est là en personne. Si tout le monde pouvait être conscient de cela, comme le monde changerait, si tout le monde croyait à cette vérité-là, comme leur existence changerait pour le mieux. » Alors, cet amour pour le Christ va ensuite se traduire dans un amour authentique pour le prochain, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, qui sont intimement liés. Il dit « Jésus est amour et plus on se nourrit de lui, plus on augmente notre capacité à aimer. » Dans la vie de Carlo rayonne ce qu'on appelle une véritable cohérence eucharistique. En l'Eucharistie, il contemple son Dieu qui s'offre, si pauvre, si vulnérable, sous les apparences du pain. Alors Carlo va chercher toutes sortes d'opportunités de volontariat pour servir, s'engager auprès des plus pauvres et des plus vulnérables. Par exemple, il recevait beaucoup de cadeaux, il venait d'une famille aisée, et pour cela, il aimait donner ses cadeaux d'anniversaire. C'était pas facile de le faire. Et donc, ce qu'il allait faire, il s'est engagé avec les Capucins de Milan, qui servaient plus de 5000 repas par jour à des personnes dans le besoin. Et c'est en faisant ceci qu'il pouvait en profiter pour donner les cadeaux qu'il avait reçus aux garçons, aux enfants les plus pauvres qu'il rencontrait là-bas. Il va même rejoindre l'équipe des bénévoles qui participent au service des repas. Alors il aime les saints, tous les saints, et spécialement ceux qui s'étaient consacrés aux plus petits. Et il aimait bien sûr Mère Teresa de Calcutta, tout spécialement. Il écrit « Beaucoup parlent des pauvres, mais peu parlent aux pauvres. Ne cherchez pas Jésus dans les pays lointains, il n'y est pas. Il est près de vous, il est avec vous. Si vous avez des yeux pour voir, vous trouverez Calcutta dans le monde entier. Les rues de Calcutta mènent à la porte de chaque cœur. Je sais que vous aimerez faire un voyage à Calcutta, mais il est plus facile d'aimer les gens au loin. Il n'est pas toujours facile d'aimer les gens d'à côté. Alors ensuite, il médite. Il reconnaissait cette présence vivante de Jésus dans les pauvres, les malades. Et c'est surtout face à la souffrance humaine, qu'il voyait le Christ crucifié. C'est pourquoi qu'il essayait de poser pour eux toutes sortes d'actes concrets de charité, car les aider, pour lui, c'était soulager Jésus crucifié. Lorsqu'il leur donnait, par exemple, une couverture ou un sac de couchage, eh bien, son esprit, se tournait vers Jésus qui, à Bethléem, eh bien, dans la nuit de sa naissance, n'avait rien ou on lui avait tout refusé. En d'autres mots, faire quelque chose pour les pauvres signifiait toujours le faire pour Jésus. Alors revenons à ces méditations eucharistiques. Aller au pied du tabernacle est aller à la source de la grâce et la source de la sainteté. Alors il écrit ceci, il parlait souvent des tabernacles abandonnés. Il dit « Le tabernacle est synonyme de berceau de la grâce. Dans le tabernacle et à partir du tabernacle, la présence divine substantielle et fondatrice agit. Il est absolument impossible de ne pas en tenir compte. Elle est là depuis plus de 20 siècles. Elle est proche. Dans le tabernacle, il y a la vie, il y a l'être, il y a l'éternité, il y a l'infini. C'est un monde à part entière. C'est notre nouvelle planète. » C'est une nouvelle étoile. Les textes géographiques et historiques doivent la mentionner. Le tabernacle doit devenir la maison de tous, le domicile de tous, le lieu de rencontre des personnes, le point de référence, le paramètre, l'unité, la mesure. L'adoration doit être approfondie. Il faut la rendre plus personnelle. Nous devons rendre grâce pour ce cadeau. Remercier, c'est reconnaître le bienfait. C'est se savoir et se sentir bénéficiaire de la grâce. Rendre grâce, remercier, goûter les dons de Dieu. Le tabernacle est l'un des plus grands cadeaux de Dieu. Le tabernacle est le lieu de l'action de grâce. Ici, Jésus rend grâce. Il rend grâce au Père. Il rend grâce au Saint-Esprit. Il rend grâce pour l'Église. Il prie pour nous. Il rend grâce pour chaque personne. Il rend grâce pour moi, pour toi, pour lui, pour elle, pour eux. Des effluves d'actions de grâce sortent du tabernacle, mais aussi la propitiation. La passion continue, le pardon doit être mérité en notre nom. Le tabernacle lève ses bras vers le ciel. Voilà, on peut dire en d'autres mots que Jésus continue sa mission de sauveur dans l'Eucharistie, au tabernacle. Il continue d'intercéder, de prier, de sauver, d'obtenir les grâces du Père pour notre terre. Alors, la dernière méditation que je trouve très belle de Carlo, on va dire, il se lâche un peu, une intuition mystique extraordinaire qui existait déjà, qui avait déjà été formulée par Saint-Pierre Julien Aymar et d'autres saints. Pour lui, la société renaîtra lorsqu'elle sera restaurée dans le feu de l'amour eucharistique. Et alors, il va faire une analogie entre l'Internet, qui crée des connexions entre les gens avec un flux, des informations, et l'Eucharistie, eh bien, qui est le cœur des liens de charité et qui nous met les uns unis aux autres, d'abord unis à Dieu et unis les uns avec les autres et par lequel la vie divine se communique. Alors, il a sa réflexion amusante, je vais vous la lire. L'histoire des tabernacles est l'histoire du salut qui, depuis plus de 2 millénaires, de manière non sanglante, se rejoue à chaque seconde sur toute la planète. Ils l'ont accompagné, ils l'ont suivi, ils l'ont marqué. Chaque tabernacle a sa propre chronique, son propre récit, sa propre histoire. Et pas la plus simple. Chaque fois qu'un tabernacle est installé, cela signifie qu'une église ou une chapelle a été bâtie. Depuis plus de 20 siècles, d'année en année, on assiste à une admirable prolifération de tabernacles. Si vous pouviez au moins continent par continent, faire une carte avec des ampoules électriques, vous en verriez des millions allumés. L'Eucharistie doit être dans le monde et se mêler à tous ceux qui y vivent. Il doit être libéré, il doit être, alors le monde, hein, il doit être purifié, il doit être humanisé par l'Eucharistie. Il ne s'agit pas là d'un discours étrange et obscur, il s'agit de réhumaniser, reciviliser, réintégrer. La présence vivante et vitale de l'Eucharistie peut à coup sûr servir cet objectif. Nous devons essayer de diffuser l'idée du culte. Il existe un risque sérieux que ce qui fait notre originalité, notre exclusivité, soit englouti par l'aplanissement culturel. Étonnant pour un jeune, hein, il a 15 ans, hein, c'est pas un théologien qui a fait la théologie, hein, c'est un jeune qui a reçu des informations, qui a écouté des homélies, qui a lu un peu et qui a déjà cette profondeur théologique. Tout cela doit être eucharistié. Il parle de la culture. Cela ne semble pas utopique. Oui, c'est gigantesque, mais ce n'est pas impossible. Si l'Eucharistie réussit à entrer dans ce monde, à s'avancer, à y faire son chemin, à investir ce monde, c'est fait. C'est la victoire. C'est le nouvel air. Un bouton, un geste, un doigt, vous êtes en contact avec le monde de la petite et la grande industrie. C'est avec l'Internet et tout ça, en pianotant. Le téléphone, la radio, la télévision, l'ordinateur, Internet sont chez vous 24 heures sur 24. Si nous sommes eucharistiés, nous prenons notre envol, un vol internetnique, un vol intercontinental et cosmique. Tout nous dépasse. Si nous parvenons à l'eucharistier, c'est tout, c'est le tout. Si nous réussissons, il se forme alors un courant impétueux dans lequel tout est pris, collecté, incorporé, massifié. Puisque l'Eucharistie existe de manière substantielle et vitale, ce courant doit la transmettre. C'est un courant qu'on appelle multimédia, c'est un flux énorme, c'est un afflux énorme, c'est un océan de nouvelles, d'idées, de paroles, de conseils, de suggestions, de propositions, d'insinuations, d'initiatives, d'interférences. Toutes les grâces eucharistiques, hein. Et nous y sommes jusqu'au cou. Nous risquons d'être submergés. C'est un ogre vorace. C'est l'occasion, je ne voudrais pas dire la dernière, d'introduire l'Eucharistie dans la danse, presque avec impétuosité, presque avec arrogance, pour en parler, pour en discuter. Confinée comme elle l'est, et comme elle l'est dans les tabernacles, elle risque d'être emprisonnée en vie. Fermée, verrouillée, blindée, le Tout-Puissant, à l'intérieur, en secret, l'omniscient, là l'être, voilà l'essentiel, là l'unique, là la Trinité, là-bas le paradis, là 24 heures sur 24, sans pause, sans libération, sans repos, sans rien, l'infini dans le fini d'une boîte, l'infini dans le fini d'un récipient, l'infini dans le fini d'un intérieur. Alors c'est ces petites méditations qu'il devait écrire pour lui le soir avant de se coucher, hein, mais je trouve que si on creuse un peu compliqué, parce que c'est un peu obscur et mélangé, mais c'est absolument génial, toutes ces intuitions profondes. Et alors il dira ensuite, la chapelle d'adoration eucharistique perpétuelle, ouais, plein dedans, ressemblera à une centrale nucléaire qui répandra la lumière du Christ sur le monde entier, déversant sur tous d'abondantes grâces et de bénédictions. Voilà, comme je disais, dommage qu'il n'était pas missionnaire de la Sainte Eucharistie avec nous. En tout cas, il est spirituellement et certainement par son intercession du haut du ciel. Alors, au début d'octobre, hein, je conclue avec en 2006, Carlo a 15 ans et demi, il tombe malade et les symptômes font penser à une simple angine. Les parents ni les médecins ne s'inquiètent. Et puis voilà que le jeune homme a comme une intuition intérieure. Il dit à ses parents, « J'offre au Seigneur, pour le pape, pour l'Église, toutes les souffrances que j'aurai à endurer et aussi pour aller droit au ciel sans passer par le purgatoire. » Offrir ses souffrances, hein, pour le pape, pour l'Église, c'est beau. Le dimanche suivant, il est dans une extrême faiblesse. On le conduit immédiatement à la clinique et voilà que les examens révèlent la terrible réalité, cette leucémie aiguë, une forme les plus agressives de cancer du sang. Lorsqu'il apprend la gravité de sa maladie, le garçon veut presque rassurer, consoler sa mère. Il s'écrie « Le Seigneur me réveille ». L'assistance respiratoire s'avérera peu efficace. Carlo est transféré au grand hôpital de Monza en Italie. Le prêtre lui administre les sacrements. Son état s'aggrave rapidement et lui occasionnant de grandes souffrances. Alors il tombe dans le coma très vite, le 11 octobre, avec une hémorragie cérébrale. Et puis c'est son cœur qui lâchera le lendemain. Alors juste après, les parents de Carlo le font transporter son corps à la maison. Et voilà que pendant 4 jours, vont suivre un défilé continuel de personnes connues, inconnues, des grands, des pauvres, des petits, toutes ces personnes qu'il a rencontrées, aimées, touchées. Une foule immense assiste à ses obsèques et beaucoup doivent rester à l'extérieur, faute de place. Voilà que Carlo est entré dans la gloire céleste. Alors il nous dit, voilà en conclusion, ce qui nous rendra vraiment beau aux yeux de Dieu, ce sera la façon dont nous l'aurons aimé et nous aurons aimé notre frère. Alors Carlo est le saint que le Seigneur nous donne aujourd'hui avec cette future canonisation. Comme un exemple, bien sûr, pour la jeunesse d'aujourd'hui, lui, mais pour tout baptisé, lui dont la vie fut si brève mais si intense, lui, ce génie informatique, mais on va dire surtout, cet ami de Jésus dans la Sainte Hostie, ce bon serviteur fidèle, cet apôtre zélé et cet ami des plus petits. Merci beaucoup. On peut dire, voilà, Saint Carlo, priez pour nous. Saint Carlo, priez pour nous. Et Saint Carlo, voilà, il aurait dû être canonisé, vous savez, par le pape François, mais qui est décédé juste avant. Donc c'est pour ça que la canonisation a été reportée de quelques semaines, mais on peut déjà le prier et certainement obtenir beaucoup de grâce de son intercession. Merci.